AMC, il est 18h05, l'intégral tour, Virginie Fulpin.
Et c'est parti jusqu'à 21h, le mur d'huile à Joaquim Rodriguez, le maillot jaune pour Chris Froome. Il y a eu de la casse sur ce Tour de France, grosse chute collective, une course neutralisée, plusieurs abandons. Cyril Guimard va décrypter tout ça à 18h20. Luc Leblanc et Thierry Bourguignon répondront à toutes vos questions entre 20h et 20h30 au 32-16. Du mur d'huile au mur du son, Lewis Hamilton, vainqueur de son Grand Prix de Formule 1 à la maison hier, le Grand Prix de Grande-Bretagne, 18h30. Les experts F1. La Coupe du Monde de rugby a commencé aujourd'hui. 2 mois de compétition, ça mérite bien 2 mois de préparation. Les Bleus sont à Marcoussis. Notre invité Jules Plisson, demi d'ouverture du Stade Français, y croit encore. Il est en rééducation. Marcelo Bielsa a peut-être cru qu'il était entraîneur du PSG. Le coach de l'OM est enfin arrivé à Marseille aujourd'hui, pile le jour de la reprise de l'entraînement du Paris Saint-Germain. Richard Gasquet en quart de finale de Wimbledon. Il a dominé le jeune Australien Nick Kyrgios et sa coupe de footballeur en 4-7. Gilles Simon est opposé en ce moment à Thomas Berdych. Tout de suite, c'est le journal des sports et c'est avec Martial Fernandez. Bonsoir Martial.
Bonsoir Virginie, bonsoir à tous.
Et le Tour de France, qui est maillot jaune dès ce soir, c'est déjà Chris Froome.
Il a frappé fort, le Britannique, mais il n'a pas gagné l'étape en haut du mur de huit. C'est l'Espagnol Rodriguez qui s'impose. Froome lui a montré qu'il était prêt pour la grande bataille. On va retrouver Christophe Cessieux en direct de huit. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Martial.
Alors Christophe, quelle étape on a vécu sur RMC? On a eu de tout aujourd'hui.
Effectivement, et depuis le départ de ce Tour de France, pas une journée sans qu'il se passe quelque chose. C'est un Tour de France passionnant, mais c'est un Tour de France qui fait mal à une vingtaine de coureurs qui ont chuté. Donc à 5 ans, une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, lancé à pleine vitesse à 60 km/h sur une ligne droite, une chute provoquée par William Bonnet, coéquipier de Thibaut Pinot, derrière, impossible d'éviter la chute pour une vingtaine de coureurs, dont Fabian Cancellara, le maillot jaune. Du coup, Fabian Cancellara a mis plusieurs minutes avant de remonter sur son vélo et de tenter de rattraper le peloton. Peloton qui a été neutralisé par Christian Prudhomme, le directeur de la course. Ils ont décidé d'attendre tout le monde et puis ensuite la grande bagarre a pu commencer en direction du mur d'huile et la grande bagarre finale dans cette terrible ascension très courte, 1,3 km, mais avec des pourcentages très élevés parce que on atteint même les 25% dans cette montée. Et dans cette montée, c'est Purito Rodriguez, le petit cigare, l'espagnol, qui a été le plus rapide et qui s'impose ici, comme il s'était déjà imposé au sommet du mur d'huile dans la Flèche Wallonne. Notre ami Rodriguez qui s'impose devant Chris Froome, le premier des quatre fantastiques, vainqueur du Tour de France il y a 2 ans et qui aujourd'hui apparaît comme le grandissime favori de ce tour. Il est désormais maillot jaune avec 1 seconde d'avance sur Tony Martin. Van Garderen est 3e à 13 secondes. Le premier français, c'est Tony Galopin. Il est 4e à 20 secondes. Et puis derrière, eh bien, les dégâts sont nombreux, notamment pour Thibaut Pinot, arrivé avec plus d'une minute 30 de retard. Il est désormais 27e au général à 2,58. Pour lui, c'est désormais adieu à la victoire dans le Tour de France.
Et on notera que Nibali, merci Christophe, Nibali a perdu 11 secondes sur Froome et Contador 18 secondes plus les 6 secondes de bonification. Le troisième de l'étape, un Français, Alexis Villermoz, tout heureux de se retrouver sur le podium d'une étape du Tour.
Oui, effectivement, c'est une belle place. Après, c'est pas une victoire. Et on sait que c'est le Tour, que les victoires, c'est que les victoires qui comptent. Mais bon, voilà, vu mon parcours sur route, une troisième place aujourd'hui, c'est déjà un très bon résultat. C'est l'objectif de toute l'équipe, de chercher une victoire d'étape. Après, effectivement, j'ai pu me rendre compte que dans les Vosges, j'étais bien. Et j'espère tenir mon rôle important que je dois avoir en montagne pour aider Romain et JC.
Voilà, Alexis Villermoz au micro de Pierre-Yves Leroux. On parlait de la chute avec Christophe Cessieux qui a coûté cher à William Bonnet, coéquipier de Jérémy Roy, qui avait du mal à s'en remettre à l'arrivée.
Et 2 grosses chutes consécutives, après on n'a pas tout compris, neutralisé, pas neutralisé, ça repart au de la bosse, ça coupe les jambes. Nous on a un équipier qui est tombé.
William Bonnet, effectivement.
William Bonnet, donc on a une pensée pour lui, il est parti à l'hôpital. J'espère que tout va bien et c'est perturbant, quoi. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments qui se mêlent. C'est le Tour de France, c'est que du vélo, mais c'est pas facile.
Voilà, Jérémy Roy, abandon de Tom Dumoulin, de Simon Guérande, et puis des nouvelles de Fabian Cancellara, qui a porté le maillot jaune et qui est parti à l'hôpital pour passer des examens ce soir. Puis attention, parce que demain, c'est l'étape des pavés, Virginie. Un petit air de Paris-Roubaix. L'étape la plus longue du tour, en plus. 223,5 km, ce sera entre Serein et Cambrai.
Et on va reparler de tout ça avec Cyril Guimard dans une dizaine de minutes. Maintenant, il sera en direct du mur d'huile. Le tennis, le français Gilles Simon est sur le coup en ce moment à Wimbledon.
On va filer à Londres. Retrouver Eric Salio, Simon face à Thomas Berdych pour son 8e de finale. Eric.
Ouais, c'est parti depuis une vingtaine de minutes et c'est bien parti pour Gilles Simon qui mène 4 jeux à 2 face au Tchèque Thomas Berdy qui est tête de série numéro 6. On sait que Gilles Simon a un bon bilan face au Tchèque puisqu'il mène 6 victoires à 4. C'est la première fois qu'il s'affronte sur herbe, mais sur ce qu'on voit depuis une vingtaine de minutes, on se dit que deux Français en quart, c'est tout à fait possible. La dernière fois que c'est arrivé, c'est en 91.
Et Eric, tu parles de deux Français en quart parce que Richard Gasquet, lui, est déjà qualifié, victoire en 4-7 cet après-midi face à l'Australien Nick Kyrgios. Le Français soulagé parce qu'il a raté 2 balles de match au 3e set et il a cru qu'il allait revivre la même mésaventure que l'an dernier face au même Kyrgios. Richard Gasquet.
Au 3e, j'ai pas trop de réussite. Il fait des montées au filet au tie-break qui se solde voilà, par des volées amorties surprenantes. J'avais le spectre quand même de 9 balles de match l'an passé. Là, il y en avait déjà 2. Donc c'est vrai que ça peut, tu peux vite refaire des similitudes par rapport à l'an passé. Donc je suis content d'avoir coupé court et de gagner ce 4e. Voilà, d'investir. Quand je suis arrivé, je voyais les mecs qui étaient en train de rigoler un petit peu. Et ils devaient certainement bien rigoler dans le vestiaire. Si j'avais été à leur place, j'aurais fait la même chose. C'est sûr que le 5e set, on aurait amusé plus d'heures. Moi, un peu moins. Ouais.
Voilà, Richard Gasquet et son analyse toujours aussi particulière. En tout cas, il aurait eu le cœur qui battait un petit peu plus vite. Les sœurs Williams, pas de surprise. C'est Serena, la plus jeune, qui a battu Vénus en 2-7, puis qualifiée aussi. Pour l'écart, 2 autres américaines, Van de Veeg et Madison Keys.
L'équipe de France de rugby est au boulot. Les 36 joueurs sélectionnés se sont retrouvés ce matin à Marcoussis pour 2 mois et demi de préparation avant la Coupe du Monde.
Et je peux te dire, Virginie, qu'il n'y aura pas que du rugby sur le terrain au programme. L'objectif, ce sera surtout de se forger des corps capables de rivaliser avec les costauds des autres pays, notamment de l'hémisphère sud. Préparation physique, musculation au programme. Maxime Rollin est avec nous. Bonsoir, Maxime.
Bonsoir, tout le monde.
Alors, tu étais à Marcoussis ce matin, Maxime. Et le message qu'on t'a clairement fait passer, c'est du physique, du physique, du physique.
C'est parfaitement résumé, Martial. Le programme était très précis. Alors, pendant 10 jours, ce sera levé 7 heures, avec 4 ou 5 sessions de 45 minutes à 1h30 par jour. Puis les Bleus prendront la direction de Tignes pour un stage d'oxygénation de 10 jours. Philippe Saint-André l'a dit, ce sera 70% de physique et 30% seulement de rugby. L'objectif est clair, champion du monde.
On va se préparer pour être champion du monde. On sait que la concurrence est rude. On sait que pour ça, il va falloir bien se préparer. Donc notre préparation va être importante sur l'aspect physique, sur l'aspect rugbystique, mais aussi sur l'état d'esprit, sur l'esprit, on va dire, commando. Et puis après, bon, ça doit être aussi du plaisir.
Alors du plaisir, pas sûr. Pour ce premier rendez-vous de la préparation, Saint-André n'était pas seul. Il était accompagné de Julien Deloire, qui est le préparateur physique en chef des Bleus. Lui, il veut pousser les Bleus dans leur dernier retranchement d'entrée de jeu. Et ça fait presque peur.
On va fractionner les séances. Ça va donner un volume d'entraînement de 4h30 à 5h par jour. L'accumulation, l'enchaînement sera particulièrement difficile. Les objectifs dictés par Philippe, qui est vraiment d'aller au plus haut, feront qu'on sera toujours à une limite entre des limites de surentraînement, parfois des limites de blessures sur lesquelles on devra flirter pour avoir un maximum de gains. Et donc la récupération sera leur salut sur cette préparation et pour nous la garantie de pouvoir enchaîner les charges de travail.
Vous l'aurez compris, les Bleus vont en baver et la première coupure de 4 jours, la dernière semaine de juillet, paraît déjà très très loin.
Alors Jules Plisson, lui, n'est pas à Marcoussis avec les autres puisqu'il est en pleine rééducation, mais le demi d'ouverture du Stade français n'a pas dit adieu à la Coupe du Monde, il y croit encore. C'est la rentrée des classes, pour le PSG en tout cas, c'était aujourd'hui.
Oui, sauf qu'ils n'étaient pas dans leur école habituelle et qu'il y avait beaucoup d'élèves absents. Reprise de l'entraînement à Marcoussis et non pas à Saint-Germain-en-Laye au Camp des Loges, parce que le Camp des Loges est en travaux. Et pour les absents, la plupart avaient une bonne excuse. Du coup, Mohamed Bouafsi, il y avait peu de têtes connues ce matin.
Lorenzo Calegari, Georgen Alec, Prenel Kipembe, voici les noms des joueurs que l'on a pu découvrir ce matin au Centre National de Rugby de Marcoussis. Une reprise en douceur pour le PSG. Sur les 23 joueurs présents, seul Thiago Motta ou encore Maxwell faisaient partie des cadres de l'équipe. Les autres, c'est pour le mois de juillet et la reprise des stars au Paris Saint-Germain. Les Parisiens, ce matin, ont fait une séance axée sur le physique avec divers ateliers pour travailler les courses avant des oppositions avec ballon. Le tout sous la direction de Laurent Blanc, désormais assisté dans son staff de Zoumana Camara, un entraîneur effectué sous les yeux des 3 joueurs de l'équipe de France de rugby, Dimitri Zarzewski, Fulgence Ouedraogo et Yannick Yanga, qui démarrent eux leur préparation pour la Coupe du Monde.
Côté Mercato, est-ce que ça bouge enfin côté parisien?
Paris a accéléré plusieurs dossiers ces derniers jours. Le PSG veut 4 joueurs, un gardien, un défenseur gauche, un milieu de terrain et un attaquant. Et selon nos informations, le gardien a déjà été trouvé. Paris devrait recruter dans les prochaines heures le jeune allemand Kevin Trapp de Francfort. Il est attendu demain à Paris pour la visite médicale. Le Paris Saint-Germain pourra ensuite attaquer le dossier d'Angel Di Maria. Cet attaquant de Manchester United est la priorité de l'entraîneur parisien Laurent Blanc. Des discussions sont en cours entre le joueur et le PSG.
actuellement.
Merci Mohamed. Guillaume Laniel nous a rejoint parce que ça a bougé ailleurs sur le marché des transferts.
RMC, le Mercato Show.
Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Martial.
Alors du concret, notamment pour le français Étienne Capou.
Oui, l'ancien Toulousain, 7 sélections, on le rappelle, avec les Bleus, quitte Tottenham pour Watford. Le milieu terrain s'est engagé pour 4 saisons, montant du transfert 8 millions d'euros. Étienne Capou ne s'est jamais imposé à Tottenham, ne participant qu'à 24 rencontres de Première Ligue ces deux dernières saisons. On vous parle depuis quelques jours de l'arrivée imminente de Wissam Ben Yedder au FC Séville. Et bien sachez que le club de Toulouse, où évolue l'attaquant français, a tenu à préciser qu'il n'y avait à ce jour aucun contact entre les deux clubs. En Ligue 1, Pedro Mendes, défenseur central de 24 ans, sera un joueur du Stade Rennais la saison prochaine. Il arrive en provenance de Parme, en Italie. Nani, accueilli par des centaines de supporters à Istanbul, l'international portugais, a signé pour 3 ans avec Fenerbahçe. La transaction s'élève à 6 millions d'euros. Nani, qui était prêté par Manchester United cette saison au Sporting Portugal, il pourrait être rejoint prochainement par Robin Van Persie. Et puis après Carlos Tevez, un autre cadre quitte la Juventus Turin. Il s'agit d'Andrea Pirlo qui, c'est officiel, traverse l'Atlantique et jouera au New York City FC. En 4 saisons à Turin, l'Italien aura remporté 4 championnats d'Italie et une coupe nationale.
Il s'offre une belle pré-retraite dorée. Toutes les infos, évidemment, c'est sur le live du Mercato sur rmcsport.fr.
Ça y est, il est là. Marcelo Bielsa est revenu à Marseille.
Supporter marseillais, rassurez-vous, El Loco est de retour. L'entraîneur argentin qui retrouve ses joueurs une dizaine de jours après la reprise officielle de l'entraînement. Il a atterri aujourd'hui à Marignane. Yann Pecheral, tu es à la commanderie. C'est le retour tant attendu de Bielsa et l'avant-saison va enfin pouvoir démarrer à l'OM.
Ça y est, il est là, en vacances chez lui en Argentine depuis la mi-juin. Marcelo Bielsa a effectivement posé le pied à l'aéroport de Marignane en début d'après-midi, accompagné de Diego Reyes et Pablo Quiroga, deux de ses adjoints. Il a ensuite pris le chemin de la commanderie pour diriger la séance du soir prévue à 17h30. Il est arrivé avec une grosse demi-heure de retard sur le terrain, Marcelo Bielsa, mais il a bien fait son apparition sur la pelouse de la commanderie. Ça va certainement rassurer les supporters de l'Olympique de Marseille, des supporters qu'on en a vus ce matin pour la première séance de la journée, puisque l'entraînement était ouvert au public et à la presse. Et c'est vrai que le retour de Bielsa fait énormément de bien au moral de ses supporters, parce qu'on le rappelle, le chantier est immense pour l'entraîneur marseillais après la vague de départ. On rappelle, André-Pierre Gignac, André Ayou et Dimitri Payet sont partis au Mercato. L'effectif est rajeuni et le travail qui s'annonce pour Marcelo Bielsa et El Loco est immense pour cet été.
Merci Yann Pecheral. Et puis Barack Obama, Virginie, qui va recevoir les championnes du monde de foot, les Américaines, qui ont battu cette nuit le Japon en finale, 5-2. Et puis attention, Budapest 2024, ça existe aussi. Les Hongrois seront aussi candidats pour les JO de 2024. Le Parlement a validé aujourd'hui la candidature de la capitale de la Hongrie. Ça fait donc 5 villes candidates, Paris, Budapest, plus Boston, Rome et Hambourg. La bataille sera féroce.
C'est important de connaître ses adversaires. Merci Martial. À tout à l'heure, 19h pour un nouveau journal des sports. Notre flèche, pas vraiment wallonne, nous attend dans un instant. C'est Cyril Guimard en direct du Mur d'Huit. Si vous avez une question à lui poser, c'est au 32-16 que ça se passe. C'est aussi sur Twitter avec le hashtag RMC Live. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.
France Info. À l'époque, j'ai taquiné la pédale. C'est vrai.
Oui. Voilà, je vous appelle parce que j'ai décidé de faire le Tour de France.
Bienvenue à la fête, camarade.
Virginie Fulpin.
Il est 18h20, l'intégral Tour, c'est jusqu'à 21h sur RMC. De la casse et des costauds aujourd'hui sur ce Tour de France. Cyril Guimard est avec nous en direct du Mur d'Huit. Bonsoir Cyril. Cyril, est-ce que Cyril Guimard est avec nous depuis le Mur d'Huit, oui, lieu d'arrivée de cette étape? Ah bah oui, j'ai eu peur Cyril. Chris Froome déjà en jaune, déjà. C'est ça qu'on a envie de dire.
Oui, déjà, alors c'est vrai qu'on aurait pu l'imaginer s'il avait réalisé une belle performance dans l'étape contre la montre du premier jour. Ça n'a pas été le cas, donc on pouvait difficilement s'imaginer qu'il se retrouve en jaune ce soir. D'autant que compte tenu de sa contre-performance contre la montre, on pouvait se dire qu'il n'était pas encore au top niveau, au top de sa forme. Et puis, eh bien, les jours passent. Hein. Hier, il y a eu une étape très difficile sous la pluie avec du vent, des bordures. Et aujourd'hui, cette étape qui arrivait en haut du Mur d'Huit, on savait qu'il se passerait des choses.
Il s'en est passé beaucoup
aujourd'hui. Et puis, Froome était impérial sur cette ascension. Alors, Ok, il n'a pas gagné l'étape, il fait seulement deuxième, battu par un véritable spécialiste de ce type d'arrivée, Rodriguez, l'Espagnol. Mais ce qui est important de souligner, c'est que Contador a tout simplement perdu dans cette ascension 18 secondes. Et 18 secondes, il les a perdues pratiquement sur les 300-350 derniers mètres de cette ascension. Ils étaient encore ensemble. Rodriguez avait commencé, bien sûr, à faire son effort avec tout le monde dans son sillage, dont Tony Galopin, qui a été aussi excellent sur cette ascension. Mais Froome a marqué son territoire ce soir.
Et oui, c'est ça. En fait, le but, c'était un peu entre Froome et Contador, c'était un peu de montrer qui était le plus fort là.
Qui était le patron
au début de tour. Oui, c'est ça le but.
Oui, oui. Qui était le patron et à chaque fois qu'on peut prendre une seconde, il faut la prendre. On ne perd pas une seconde volontairement. Toutes les secondes, elles ont une valeur et une vraie valeur et il faut essayer de la prendre. En plus, sur le plan psychologique, ça remet.
Ouais, c'est plus difficile de repartir le lendemain.
Ah, ça met Contador dans les cordes. Nibali, qui lui a été dans les cordes hier, mais dans des circonstances un petit peu différentes. Nibali, lui, a réalisé quand même une belle montée, il n'est qu'à 11 secondes. Et puis également
pareil pour Quintana.
Donc c'est surtout Contador qui a reçu aujourd'hui, mais pour moi, il a plus reçu sur le plan psychologique que les 18 secondes, l'importance des 18 secondes. D'autant que demain, nous allons avoir un nouvel exercice, celui qu'on connaît tous, nous, les pavés de Paris-Roubaix. Et s'il n'est pas mieux que l'an dernier, eh bien, il risque encore de perdre du temps. Mais rappelez-vous, Froome n'était pas arrivé au pavé l'an dernier.
Oui, effectivement, mais là il pleut quand même nettement moins, hein, on va dire, que l'année dernière.
Mais vous savez, pluie, je ne sais pas qui est le plus difficile, sous la pluie ou dans la poussière et sur le sec. Sur le
oui,
sec,
c'est ça, parce que ça soulève en fait, hein, ça oui, non, soulève, ça, on en prend plein tape, les yeux, oui.
Ça tape beaucoup plus fort sur le pavé, parce que vous roulez pratiquement 10 km/h plus vite. Ça veut dire que même les chutes sont encore plus importantes que sur le mouillé.
Cyril, quand même un mot sur Tony Galopin, parce que là il se retrouve quatrième au classement général. Jolie performance aujourd'hui. Hein. Enfin, toi ça t'étonne pas, j'imagine, mais quand même,
un petit peu quand même dans cette ascension. Je le voyais pas à ce niveau-là, compte tenu de son rapport poids-puissance. Il a peut-être même fait une petite erreur en accompagnant trop longtemps Rodriguez. Peut-être qu'en le laissant partir une dizaine ou une quinzaine de mètres, il aurait peut-être pu faire une meilleure performance, ou au moins pratiquement terminer à la hauteur de Christopher Froome, mais il a tenté et ça a été un peu trop vite pour lui. Mais il n'est qu'à 26 secondes au classement général. Et je viens de le dire, demain c'est quoi? C'est des pavés. Galopin, il aime bien les pavés.
Ouais, donc on peut s'attendre à une petite surprise de sa part demain. Allez, on va dire ça.
Pourquoi pas un maillot jaune pour Tony Galopin, comme il l'avait fait l'an dernier dans d'autres circonstances. Mais pourquoi pas Tony Galopin en jaune demain soir après les pavés?
Ce qui est sûr, c'est que Thibaut Pinot le sera pas, parce que lui, ça y est, c'est terminé. Hein. Oui, il avait fait un très bon contre-la-montre par rapport à ce qu'on attendait. Autant aussi bien hier qu'aujourd'hui, grosse déception.
Grosse déception. Alors c'est vrai, bon, il a un de ses équipiers qui a chuté, mais enfin il y a eu beaucoup de coureurs qui ont chuté. Il dit avoir eu du mal à se reconcentrer ensuite. Mais à partir du moment où vous faites décrocher dans l'avant-dernière course, c'est même si mentalement on n'est plus tout à fait dedans, ça veut dire qu'on manque un petit peu de compression quand même.
Alors Cyril, ce qu'on a remarqué aujourd'hui, évidemment, c'est cette énorme chute, hein, qui était assez impressionnante, avec une bonne vingtaine de coureurs impliqués, parmi eux le maillot jaune, Fabian Cancellara. L'étape a été neutralisée, le peloton carrément arrêté. Pourquoi? Enfin, comment on justifie d'arrêter ça? Parce que des chutes dans le Tour de France, il y en a régulièrement. Donc pourquoi là on arrête?
Eh bien, alors il y a d'abord les faits au moment où ils se déroulent, et puis essayer d'analyser ce qui s'est passé, on va dire 3 heures après, c'est beaucoup plus facile. Mais les décisions, il faut les prendre à l'instant T. Il y a donc cette chute d'une vingtaine de coureurs, chute où ça tape très fort puisqu'on roule très vite. C'est William Bonnet qui vient toucher une roue, qui part, mais son vélo reste au milieu de la route. Donc derrière, tous les coureurs, pratiquement tous les coureurs lui passent dessus d'ailleurs. Et là, il y a beaucoup de blessés. Donc la course continue, puisqu'il faut savoir que là où ça tombe à peu près en 20e, 20, 25e cinquième position. Tous les coureurs qui sont devant éventuellement entendent la chute, sauf s'il y a quelqu'un qui parle dans leurs oreillettes, mais ça c'est encore un autre débat. Et puis les autres qui passent à côté, et la course continue. Et la course était lancée, parce qu'il y avait un mauvais vent un peu vicieux, ce qui venait de la droite. Et d'ailleurs, on avait vu que le peloton avait accéléré justement pour éviter de se faire prendre dans des bordures. Les équipes de leaders roulaient. Et donc, une chute, ça veut dire quand on regarde, Contador est là, machin est là, il y a un tel qu'on voit pas, on enclenche. Puis il y avait des équipes qui avaient envie d'enclencher. Écoutez, hier, ils sont pas arrêtés sur les chutes. Donc la course passe. Et puis, on décide de neutraliser. Donc là, nous, on comprend pas, on n'a pas les informations, et on se dit, attendez, là, on est dans une
parce
première.
Que moi, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, on attend Cancellara, donc on sait Cancellara.
Oui, non, mais, vous avez d'ailleurs les tweetos qui disent, mais, ah oui, on arrête la course pour attendre Cancellara. Non. Là, c'est une vue de l'esprit. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, Prudhomme dit, la course repart. Et les coureurs voulaient repartir parce qu'ils étaient nerveux en disant, attendez, moi, on m'a pas attendu hier.
Ah, mais ça se voyait, ouais. Ils étaient véhéments, hein, certains.
Et puis, Prudhomme dit, on relance la course. Et là, derrière, et d'ailleurs, dans Radio Tour, il y a des interventions immédiates en disant, non, stoppez. Et en fait, on s'aperçoit que il n'y a plus du tout de service médical derrière les 160 coureurs qui restent en course, puisque toutes les ambulances sont arrêtées, tous les médecins sont arrêtés, et à partir de ce moment-là, vous êtes dans l'obligation de neutraliser. Imaginez que vous ayez un grave accident plus loin. Un grave accident où il faut une intervention immédiate, là vous n'avez plus d'ambulance, vous n'avez plus de médecin, et là la responsabilité de l'organisation aurait été mise en cause.
Je comprends beaucoup mieux comme ça. Merci beaucoup Cyril Guimard de toutes ces lumières. Donc dès 19h tu retrouves toute la clique autour de Christophe Cessieux pour les débats du jour, les débats du tour.
19h,
exactement.
Ah, j'avais compris 18h, ouais.
Non, bah, sinon, ça
c'est mon oreille qui est, paresseuse.
Nous, avant ça, on va aller faire vrombir les moteurs de F1 avec Jean-Luc Roy après le Grand Prix de Grande-Bretagne remporté hier par Lewis Hamilton. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 18h32 sur RMC. On est toujours dans l'Intégral Tour jusqu'à 21h et c'est l'heure des experts F1.
RMC, les experts F1.
Jean-Luc Roy est en ligne avec nous. Bonsoir Jean-Luc.
Oui, bonsoir Virginie, bonsoir à tous.
Alors on est au lendemain du Grand Prix de Grande-Bretagne avec la victoire de Lewis Hamilton devant Nico Rosberg et Sébastien Vettel. Il y avait une ambiance de dingue là à Silverstone, hein. On peut dire qu'il y a eu du spectacle.
Ah ben écoute, c'était absolument génial et ça fait vraiment plaisir après quelques grands prix qui avaient été plus ou moins désertés pour des raisons que l'on sait, on en parle depuis un moment. Eh bien là, c'est vraiment le soutien du public britannique. C'est un vrai pays de sport mécanique, c'est un vrai pays de sport automobile, c'est un vrai pays de Formule 1. Tu sais, il y a 7 écuries qui sont implantées immédiatement tout autour. C'est vraiment la Silicon Valley de la Formule 1 et on sent bien, en plus avec un pilote comme Lewis Hamilton qui les enchante, que le public britannique est là, répond présent, puis il y a des écuries emblématiques, William, je sais qu'on va en parler. Bref, c'est vraiment la fête de la Formule 1 et du sport automobile, même quand il pleut. Mais tu sais, en Grande-Bretagne, il pleut souvent.
Ça peut arriver, disons. C'était sans doute, c'est vrai, une des courses les plus intéressantes depuis le début de la saison, du suspense, du panache. On a vu que les Williams pouvaient éventuellement faire de l'ombre aux Mercedes. En tout cas, au départ, ce sont elles qui se sont montrées.
Exactement. Écoute, on l'avait compris dès les essais qualificatifs où ils occupaient l'intégralité de la deuxième ligne, les deux pilotes, Felipe Massa et Valtteri Bottas dans l'ordre. Et puis il a fallu que les deux Mercedes patinent, c'est le cas de le dire, au décollage. Alors l'explication n'est toujours pas fournie. Là, il y a quelques minutes encore, j'ai essayé de me renseigner sur le sujet. Les pilotes ne savent pas et l'écurie ne sait pas pourquoi les deux Mercedes sont restés scotchés littéralement sur la grille de départ.
Parce que c'est vrai qu'on s'attendait.
Tant mieux pour nous. Ça nous
oui,
a valu
c'est mieux pour le
cours.
Spectacle. Mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas du tout à ça, parce que bon, quand Lewis Hamilton est en pole position depuis le début de la saison, enfin Lewis Hamilton ou Nico Rosberg, généralement ils ne se font pas passer au départ. Donc là, on n'a pas d'explication, rien.
Non, pas pour le moment. Écoute, on avait vu Hamilton un peu rater son départ, ou tout au moins Nico Rosberg parfaitement réussir le sien lors du dernier Grand Prix en Autriche. Hein. C'est même comme ça que Rosberg a gagné, puisqu'il a pris l'avantage et ensuite il a su le conserver. Donc c'était un départ moyen d'Hamilton. D'ailleurs, Hamilton, d'après ce qu'on disait, on fait pas trop de pub là-dessus, aurait repris son système d'embrayage de 2014. Tu vois qu'il sentait mieux, et puis il aurait fait à sa manière. Mais là, c'était les deux Mercedes qui sont
restés scotchés. Il avait une voiture d'occasion, quoi.
Oui, bah écoute, c'est les bruits qui courent. Et puis l'autre problème, tu sais, c'est que maintenant, même les ingénieurs interfèrent dans le processus de départ. Et ça, on le sait bien, puisque les pilotes, réinitient leur processus de départ dans le tour de formation, avant de s'arrêter sur la grille. Et ça, c'est un autre problème qu'il faut absolument supprimer en Formule 1 pour que le pilote soit responsable totalement de ses départs.
Alors justement, ça tombe bien que tu parles de ça, puisque je crois que la FIA veut apporter des changements, même très rapidement. D'ici le mois d'août pour le Grand Prix de Belgique. Et en fait, le but, ce serait de, pour qu'il y ait plus de spectacles, que les pilotes pilotent quoi, tout seuls, c'est ça ?
Exactement ça. Écoute, je vais résumer d'une formule. C'est, y a-t-il un pilote dans la monoplace ? Eh bien oui, on va à nouveau en avoir un, et non pas qu'un espèce de personnage télécommandé par des ingénieurs. Et le pire, c'est que bien souvent, ce ne sont même pas les ingénieurs que tu vois sur le bord de la piste, mais ce sont des dizaines ou des centaines d'ingénieurs qui sont là-bas dans l'usine et qui, en temps réel, ont toutes les données mécaniques, aérodynamiques et ce que tu veux, et stratégiques, et qui conçoivent ce que doit faire le pilote. Ça, c'est une hérésie totale. D'abord, je ne te dis même pas combien ça coûte, et puis on arrive, et j'y reviens peut-être pour la dernière fois, j'espère, sur l'aberration de Monaco, où on arrête le pilote en tête pour qu'il change de pneu à 15 tours de l'arrivée, c'est du n'importe quoi. Donc là, à la FIA, le projet, c'est un vrai communiqué officiel, de redonner le pouvoir au pilote de piloter, c'est formidable.
Mais en fait, ce qui est dingue, c'est qu'on se demande comment on n'y a pas pensé avant, comment on ne s'est pas dit avant, finalement le spectacle, c'est quand même de voir des pilotes piloter en Formule 1.
Et le spectacle et la passion, si tu veux rassembler 140 000 personnes, eh bien, il faut leur donner du grain à moudre, faut leur donner. Et puis, ma foi, on a voulu arriver au risque zéro et aux erreurs zéro. Mais on sait très bien que c'est impossible. Dans la vie déjà, mais en sport automobile a fortiori, et encore plus en Formule 1. Ce sont les erreurs qui provoquent justement les belles et les grandes situations. Ce sont les erreurs stratégiques, ce sont les erreurs de pilotage, parce qu'il y en a qui font moins d'erreurs que les autres. C'est ce qu'on appelle un champion, un grand pilote. Ça, c'est valable dans tous les domaines. Alors, pourquoi il y a eu une dérive ? Parce que les règlements ont été très mal faits, et je le dis depuis un an et demi sur tous les tons, sur la scène de RMC.
C'est une vraie victoire, Jean-Luc, pour toi, là.
Pardon ?
C'est une vraie victoire pour toi, là.
Oui, bon, c'est prétentieux, mais non, il n'y a pas que moi qui le dis. Tous les passionnés de sport mécanique le disent et le pensent. Alors, certains, je fais partie de ces privilégiés, ont le pouvoir de le dire. Et puis, comme tu le sais, sur RMC, on n'a jamais la langue de bois. Moi, je ne l'ai pas, je dis ce que je pense. Et bien là, il se trouve qu'on a raison. Alors, au début, pareil, on nous a dit, au niveau des instances fédérales et autres, vous, les journalistes, vous crachez toujours dans la soupe. Mais c'est parce qu'on aime ça qu'on dit ce qu'il faut faire. Et quand on s'est reconnu, eh bien oui, c'est pas du triomphalisme. On est content que ça se fasse. Maintenant, on attend que ce soit dans les faits, pour triompher, justement.
Merci beaucoup, Jean-Luc. On te retrouve pour le Grand Prix de Hongrie sur RMC dans 3 semaines maintenant. À ce moment-là, il n'y aura pas encore ces changements. Ce sera pour le Grand Prix de Belgique juste après. Merci, Jean-Luc. À très bientôt.
Avec plaisir, à bientôt.
Et on est en Angleterre. On reste en Angleterre puisqu'on va à Wimbledon.
RMC Wimbledon 2015.
Avec Eric Salio confortablement installé sur le gazon de Wimbledon pour une longue journée de tennis. Salut Eric.
Salut Virginie.
Eh ben ça se passe pas mal quand même là pour Gilles Simon face à Thomas Berdych.
Effectivement, il a remporté le premier set 6 jeux à 3, mais là la partie est interrompue depuis une dizaine de minutes parce que semble-t-il une personne a fait un malaise dans les tribunes et on.
Il fait trop chaud à Wimbledon.
Vous connaissez la BBC, on ne montre pas les personnes en difficulté, donc on devine qu'il se passe quelque chose. On est en train d'évacuer la malheureuse personne, mais ça fait quand même 10 minutes que Gilles et Thomas Berdych
sont toujours sur le court.
Ils attendent le feu vert de l'arbitre pour reprendre le jeu, mais il y a un supervisor qui est là aussi, mais apparemment, ça met du temps à évacuer le cours.
Alors, Gilles Simon, donc, qui a remporté le premier set face à Thomas Berdych, ça fait une bonne journée, tout ça, puisqu'un peu plus tôt, Richard Gasquet a dominé Nick Kyrgios. Il a pris sa revanche face à l'Australien à la Coupe de footballeurs. On a eu peur quand même pour Gasquet. Il était largement meilleur au début, puis on s'est dit, oh là là, il va recommencer comme l'an dernier.
Il a vu le fantôme de l'an dernier. Et ça, il a confié tout à l'heure.
On rappelle que l'an dernier, il avait perdu en 5-7 après avoir remporté les deux premiers au deuxième tour.
Et surtout avoir manqué 9 balles de match. Et donc, quand il a perdu les deux balles de match dans le troisième set, dans sa tête, c'était 9 plus 2. Ça faisait 11 balles de match d'affilée non concrétisées. Et il s'est dit, ça sent la mauvaise mayonnaise. Et finalement, dans le quatrième set, il a reçu un joli coup de pouce de Nick Kyrgios qui s'est procuré 2 balles pour revenir à 2 manches partout et donc embarquer le Français dans un cinquième set de tous les dangers. Kyrgios, notamment, a commis une double faute. Et quelques minutes plus tard, c'était une nouvelle double faute qui scellait la rencontre avec l'aide du Hokkaï, puisque comme l'an passé, Kyrgios
sérieux, ça a failli sauver sa peau sur le Hawkeye, avec le Hawkeye, mais cette fois-ci, Richard Gasquet a imploré les dieux pendant que on passait la vidéo sur l'écran géant, et cette fois-ci c'était sorti de quelques centimètres. Donc Richard Gasquet a bel et bien décroché son deuxième quart de finale ici à Wimbledon, 8 ans après, et on connaît son adversaire depuis quelques minutes, Virginie.
Alors,
ce sera le champion de Roland-Garros. Ce sera Stan Wawrinka.
Il vaut mieux le jouer sur gazon.
Bah, je commence à me poser des questions, parce que là, il vient de mettre 7-6, 7-6, 6-4 à David Goffin. Il semble vraiment dans une confiance tout à fait extraordinaire. On n'a pas trop de repères sur les face-à-face, puisque ce sera seulement le troisième match entre les deux joueurs. Il y avait eu un match fantastique à Roland-Garros il y a quelques années, que le Français avait perdu 8-6 au cinquième. Donc, c'est jouable. Mais il faudra du grand Gasquet pour stopper donc le taureau.
C'est ce qu'on voit quand même depuis le début du tournoi, du grand Gasquet. Hein,
c'est du très bon Gasquet. C'est
face
du très
à
bon
Dimitrov Gasquet. Notamment, il a été impressionnant, Richard Gasquet. Donc il faut recommencer ça en fait.
C'est un tout petit Dimitrov depuis le début de l'année, Virginie. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Mais contre Gaïos, il était très solide mentalement, parce que vraiment il a dû avoir des idées noires quand ça se passait,
oui,
pas aussi bien qu'il le voulait.
Parce que Kyrgios est insupportable aussi. De temps en temps, il joue, de temps en temps, il joue pas.
Ça, il s'en moque complètement. Il dit, le mec, il fait son business. Tant qu'il ne manque pas de respect, alors peut-être qu'il manque de respect au jeu. Ça, c'est clair, parce que comme
c'est un ado en fait, et il réagit comme un ado. On a l'impression.
Il a carrément balancé le deuxième set. Il a pas joué, il jouait pas les points. Bon, mais Richard savait qu'au troisième, son adversaire se remettrait complètement dans le truc, et c'est ce qui s'est passé. Mais il est encore un peu tendre, Kyrgios. Mais ce sera assurément un joueur qui peut remporter Wimbledon, parce qu'il a le jeu pour.
Merci beaucoup Eric, salut, on va te retrouver demain pour parler de Wimbledon. Donc Gilles Simon face à Thomas Berdych, ça reprend, donc de toute façon on va suivre ce match. Et puis demain on parlera également de la Coupe Davis, puisque Arnaud Clément va nous dire quel joueur il retient pour jouer contre la Grande-Bretagne en quart de finale au Queen's juste après Wimbledon. On n'en sort pas de l'Angleterre, la Formule 1, le tennis, le rugby maintenant, la Coupe du Monde, c'est en Angleterre à partir du 18 septembre, mais elle commence aujourd'hui pour le 15 de France. Réunion à Marcoussis, c'est là qu'on va dans deux minutes. À tout suite.
RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 18h46, l'Intégral Tour continue jusqu'à 21h sur RMC. La Coupe du Monde de rugby, c'est dans un tout petit peu plus de deux mois maintenant, 18 septembre, mais pour le 15 de France, ça commence maintenant avec un stage à Marcoussis. Marcoussis, c'est un peu la deuxième maison de Laurent Depré. Bonsoir Laurent.
Salut Virginie.
Bon, que font les joueurs du 15 de France à Marcoussis? C'est quoi le programme?
Ils transpirent et ils vont chercher à améliorer leur performance. En fait, la préparation à la Coupe du Monde, il faut la voir un peu comme un joli gâteau avec des tranches napolitaines, tu vois. Seulement, elles sont pas forcément toutes très digestes, parce que quand il s'agit de transpirer sous la canicule, ben les garçons, ils font plus de 100 kilos en moyenne, faut quand même s'envoyer. Donc, au menu de cette première tranche, de ce premier bloc de 20 jours qui débute ce matin et qui va nous emmener jusqu'au 25 juillet au terme d'un stage en altitude à Tignes qui lui débutera après le 14 juillet. Bref, prise de performance déjà, où ils en sont, prise de poids, prise d'information, il y a eu des blessés, la saison a été longue. Et à partir de là, ça va être d'essayer d'optimiser toutes les valeurs d'excellence que représentent ces 36 joueurs qui préparent la Coupe du Monde. C'est-à-dire développé couché, vitesse aérobie, résistance, le test de l'étoile, le test australien, ceux qui font du sport connaissent, essayer de courir le plus vite possible, le plus longtemps possible et le plus souvent possible. C'est un travail de longue haleine, comme le dit Philippe Saint-André, c'est 70% de matière transpiration, donc de préparation physique, et 30% de ballon, parce qu'il faut pas oublier qu'on est là aussi pour faire du rugby. Le rugby sera temps aussi d'en parler à Tignes, donc ça sera du 15 juillet au 25 juillet, avec aussi des activités ludiques et variées, mais toujours difficiles, du VTT en montagne pas simple, du canyoning, etc. Et puis une nuit en montagne à la Belle Étoile à la fraîche.
Alors il y en a un qui n'est pas à Marcoussis en ce moment, hein, un joueur qui peut encore aller à la Coupe du Monde, mais il a été blessé, donc pour l'instant il est en rééducation. C'est Jules Plisson qui est avec nous en ligne, demi d'ouverture du Stade Français et du 15 de France. Bonsoir Jules.
Bonsoir.
Alors vous êtes en pleine rééducation là en ce moment, Jules, après votre blessure à l'épaule. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire où est-ce que vous en êtes? Comment vous allez?
Alors ouais, je suis en pleine rééducation, je suis plutôt sur la fin de ma rééducation. Tout va très bien, j'ai pas eu de pépin au sein de, enfin tout au long de ma rééducation, tout s'est très bien passé, j'ai été très bien pris en charge, que ce soit par le club à Cap-Breton ou à la DAB dans le centre de rééducation dans lequel je vais. Et c'est vrai que non, je suis très bien, j'ai une belle épaule toute neuve et voilà, maintenant je suis en la période où je me renforce musculairement pour retrouver une musculature normale au niveau du bras.
On va rappeler la blessure, hein. C'était le match à domicile contre le Stade Toulousain, une défaite, mais qui avait peut-être paradoxalement lancé le Stade Français sur finalement le Stairway to Heaven et ce bouclier de Brennus. Un petit retour quand même sur, allez, sur ces jours de folie, Jules. Qu'est-ce que ça fait quand même là de le voir ce bouclier?
Bah non, mais c'est génial pour le club, c'est génial pour tous ceux qui, pour tous les supporters, pour tous ceux qui ont cru au Stade Français et qui n'ont jamais rien lâché même dans les moments les plus compliqués. C'est vrai que voilà, c'est une récompense du travail accompli depuis plusieurs années par les joueurs, par le président et non, on est plus que contents. Nous on y a toujours cru, même si beaucoup de personnes ne nous voyaient pas en haut de l'affiche. Nous on y a toujours cru, on a toujours cru au potentiel de l'équipe. Et c'est vrai que voilà, c'est une belle récompense pour le groupe, pour tout le travail qui a été fait avant.
Alors cette année, Jules, il y a donc une année extraordinaire pour le Stade Français. Et puis il y a le 15 de France, la Coupe du Monde dans 75 jours maintenant. Vous avez été blessé, certes, mais est-ce que cette Coupe du Monde, vous l'avez toujours dans un coin de votre tête? C'est toujours votre objectif?
Oui, mon objectif, il sera de participer à cette Coupe du Monde. Après, je ne sais pas comment, mais il sera d'être dans le groupe pour la Coupe du Monde. Maintenant, je suis blessé. Ce qui m'importe, je peux vous cacher, parce que j'ai toujours envie de faire cette Coupe du Monde là, mais ce qui m'importe pour l'instant, c'est ma rééducation et c'est de revenir le plus rapidement possible de la meilleure des façons. Et ça, c'est, j'ai qu'une solution, c'est bosser de l'arrache-pied pour être à 100% assez rapidement et voilà, on verra bien de ce que sera fait la suite. Mais pour l'instant, je me pose pas vraiment la question à savoir est-ce que j'y serai, est-ce que j'y serai pas. Je me dis juste, voilà, mets toutes tes chances de ton côté, bosse et après tu verras, tu sais que t'auras plus rien à te reprocher pour.
Ouais, parce que t'as une date butoir finalement qui approche avant la fin juillet. C'est la rencontre avec un monsieur qui peut finalement décider de la suite. C'est le chirurgien. Tu peux nous expliquer le boulot que tu as à faire et le minimum syndical, on va dire, lui présenter au niveau de ton épaule.
Je sais pas si c'est le chirurgien qui décidera ou pas. En tout cas, ouais, le chirurgien, j'ai encore eu au téléphone hier. Je lui ai dit que ça avance. Enfin, il m'a demandé de nouvelles et je lui ai dit que ça avançait très bien et que je me sentais super bien. Mais en fait, là, ce qu'il me reste à faire, c'est de retrouver. Encore ce qui me manque un petit peu d'amplitude, mais ça c'est normal parce que la vie c'est quand même bien vissée, donc ça me bloque un peu, mais surtout se retrouver une musculature pour voilà, me refaire une carapace comme ce qu'on pouvait avoir avant, ce que je pouvais avoir avant. Et voilà, le chirurgien je vois le 28 juillet, j'ai rendez-vous avec lui, mais auparavant je retournerai à Cap-Breton pour là, encore une fois, mettre toutes les chances de mon côté. C'est moi qui ai décidé de voilà la Cap-Breton et de revenir un peu plus tard voilà avec le Stade Français. Le Stade Français reprend le 22 juillet, moi je reviendrai que le 25. Mais avec l'accord de Gonzalo, pour que je mette toutes les chances de mon côté pour fin juillet être opérationnel.
Ça consiste en quoi quand on a une sorte de date butoir comme ça, votre travail au quotidien là aujourd'hui? C'est quoi vos journées?
Mais aujourd'hui c'est un jour un peu particulier parce que j'ai lancé un stage de rugby, donc là je suis avec eux aujourd'hui pour le lancement, mais ça se passe super bien, je suis super content. Mais sinon, dès demain, enfin je retourne à ma rééducation le matin à 9h, je vais enfin à 8h30, 9h, je vais taper. Et pendant une heure, après je vais faire une grosse séance de physique et après j'enchaîne avec le kiné au Stade Français. Et l'après-midi, je retourne à la DAB dans le centre de rééducation et puis ma journée, je la termine à la salle de musculation pour me remuscler. Donc je vous avoue que j'ai des grosses journées, mais c'est le prix à payer pour revenir.
Ouais, en fait, pour la faire simple, il faut pas perdre la caisse, donc c'est énormément courir, faut pas perdre de masse musculaire, donc c'est beaucoup de musculation. Et puis il y a cette épaule là. On va dire musclée à nouveau comme elle était avant l'incident, et ce qui veut dire aussi des contrôles à chaque fois, parce qu'il faut pas faire de choses dissymétriques, faut pas en faire trop d'un côté et pas assez de l'autre. C'est qu'un va-et-vient entre la salle de soins et puis tes sensations.
C'est exactement ça. C'est un protocole qui est mis en place entre les différents préparateurs physiques, les kinés et le docteur et le chirurgien pour pas que je fasse de bêtises non plus sur l'épaule. Je sais que j'ai pas le droit de travailler certains mouvements parce que ça peut tirer sur ma butée. Mais voilà, on essaie de trouver des alternatives à ça pour que je puisse me remuscler et tout en travaillant avec la caisse. Et voilà, je pense que tu l'as assez bien résumé. Félicitations.
Parce que j'en ai passé aussi quelques-unes.
Vous disiez que c'était un jour un peu particulier pour vous. C'est aussi le rassemblement du groupe France à Marcoussis. Un petit pincement au cœur, vous y pensez?
Bien sûr que j'y pense, bien sûr que j'aurais voulu être avec eux, mais voilà, c'est comme ça, il y a des règles qui sont mises en place et ces règles-là, il faut les respecter. Et ma place pour l'instant, elle n'est pas là-bas, donc voilà, c'est comme ça, mais c'est quelque chose que j'ai accepté aussi. Et je me dis que mon challenge, il peut être que plus beau de réussir à revenir de mon côté en forme. Et voilà, si enfin, si à la fin ils comptent sur moi, mais ils me prendront, et puis s'ils comptent pas sur moi, ils me prendront pas. Et ouais, je reprendrai avec un grand sourire le championnat de France dès le 22 juillet. Donc voilà, je me pose pas grand question par rapport à ça. Pour être franc avec vous, je me dis juste voilà, de bien me rééduquer, d'être en forme, et je reste souriant, je reste le mec que je suis d'habitude, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça.
Ben en fait, je vais résumer, Virginie, ce qu'il ne peut pas te dire, c'est qu'il se donne autant de chances de faire la Coupe du Monde qu'il se donnait de chances de le soulever le bouclier de Brennus à la fin de la saison. Il y croit dur comme fer. Et tu as un petit message à passer aux trois autres Parisiens là, qui ont la chance d'être à Marcoussis, Rabat Slimani, Alexandre Flancard et Pascal Papé?
Le message, c'est bon courage, parce que je crois que ça va piquer. Mais que voilà, que ouais, ils ont beaucoup de chance d'y être, et qu'ils le méritent, et qu'ils ont fait une saison extraordinaire, et que je suis très fier qu'ils y soient, même si je pense que d'autres aussi auraient pu y être. Et voilà, donc je suis très fier pour eux. J'espère qu'ils représenteront du mieux possible le staff français.
Merci beaucoup, merci Jules Pisson, d'avoir passé quelques minutes avec nous dans l'intégral tour sur RMC. À très bientôt.
Plaisir. Merci beaucoup.
Alors, on va suivre, bien sûr, les progrès de Jules Plisson dans sa rééducation. On va aussi suivre toute la préparation du 15 de France sur RMC avec Laurent Depré, avec Maxime Rollin, qui sont tous les jours à Marcoussis, donc jusqu'au 14 juillet, à Marcoussis, dans l'Essonne, en région parisienne. Et puis, du 15 au 25 juillet, ce sera le stage à Tignes. Il y a deux dates très importantes aussi cet été, 15 et 22 août, double confrontation contre l'Angleterre. Et au lendemain de cette double confrontation, le 23 août, à ce moment-là, Philippe Saint-André donnera sa liste des 31 joueurs retenus pour faire la Coupe du Monde. D'ici là, on est toujours dans l'intégral tour sur RMC. À 20h, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon sont là pour répondre à toutes vos questions au 32-16 et sur le hashtag RMC Live sur le Tour de France. Et puis à 20h30, ce sera une page foot avant l'after, la rentrée du PSG, l'arrivée de Marcelo Bielsa enfin à Marseille. On va parler de tout ça, mais pour l'instant on retrouve Christophe Cessieux qui est au mur du Huy.
Tout en haut du mur du
Huy. Tout en haut.
Exactement.
Ça y est. Je suis enfin arrivé.
Je suis enfin arrivé avec deux heures de retard, mais j'y suis effectivement pour vous raconter ce qui s'est passé cet après-midi, pour débattre évidemment avec toute la Dream Team juste après le journal des sports de 19h. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui. La chute collective, la prise de pouvoir de Chris Froome et puis Thibaut Pinot qui ne gagnera probablement pas le Tour de France cette année. On en parle jusqu'à 21h. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.